même si on n'est pas nombreux ce matin, c'est qu'on a l'assurance d'une chose, c'est que Jésus est au milieu de nous, et c'est ce qu'il nous dit dans la Bible. Lorsque deux ou trois sont réunis, bon là on a un petit peu plus ce matin, je serai au milieu de vous. Et c'est vraiment une chose fantastique de savoir cela, que nous sommes dans sa présence. Avant de commencer, je vous invite à vous recueillir en prière avec moi. Seigneur Jésus, nous te remercions pour toutes tes bénédictions, te remercions pour ce moment que tu nous donnes ce matin, et merci pour ta présence. Merci parce que c'est toi qui réconforte nos cœurs, c'est toi qui donne un sens à nos vies, et c'est toi que nous aimons, Seigneur, car tu es venu sur terre et tu as tout accompli pour nous sauver, pour nous offrir le salut. Et c'est en cela que, Seigneur, nous voulons vraiment te remercier. Tu es notre Sauveur, notre Seigneur, et nous voulons véritablement te dédier nos vies et que nos identités soient uniquement en toi, Seigneur Jésus. En ton nom, nous te prions. Amen. Alors, quand j'ai su que je devais préparer un message pour aujourd'hui, j'aime bien avoir mon idée quelques semaines avant. Et c'est vrai que souvent, je pique à droite à gauche des idées, des passages pour pouvoir agrémenter mon message. Et la semaine d'avant, donc cette semaine, comme ça, j'ai une multitude de passages, d'idées, et comme ça, je peux à peu près travailler mon message. Et c'est vrai que cette semaine, donc en préparant, je me suis posé une question, je me suis demandé, mais quel était véritablement le rôle de l'Église dans nos vies, en tant que disciples de Jésus? Et les réponses les plus évidentes qui me sont venues à l'esprit, c'était l'Église sert à glorifier Christ, hein, ça on le sait, en attendant sa venue. Elle sert à annoncer le royaume de Dieu à ceux qui ne croient pas, c'est-à-dire l'évangélisation. Et elle sert à encourager les fidèles, les croyants, c'est-à-dire nous. Lorsque nous venons à l'Église, nous venons également pour être encouragés, pour progresser dans notre foi. Et aujourd'hui, j'aimerais me concentrer donc sur ce dernier point, à savoir de nous encourager, nous, les fidèles qui croyons que Jésus est mort et ressuscité pour nous. Et donc, je vais mettre à profit le terme un petit peu ancien d'exhortation, à savoir de pouvoir vous encourager. Et je vous invite à prendre avec moi, si vous avez vos Bibles avec vous, donc en Philippiens chapitre 3, les versets 12 à 21. C'est un passage qu'on connaît bien, hein, c'est Paul qui s'adresse aux Philippiens. Il dit, donc je ne prétends pas avoir déjà atteint le but ou être déjà devenu parfait, mais je poursuis ma course pour m'efforcer d'en saisir le prix, car j'ai été moi-même saisi par Jésus-Christ. Non, frère, je ne pense pas avoir déjà obtenu le prix, mais je fais une chose. J'oublie ce qui est derrière moi et m'efforce d'atteindre ce qui est devant moi. Ainsi, je cours vers le but, afin de gagner le prix que Dieu, par Jésus-Christ, nous appelle à recevoir là-haut. Nous tous qui sommes spirituellement adultes, ayons cette même préoccupation. Cependant, si vous avez une autre opinion, Dieu vous éclairera à ce sujet. Quoi qu'il en soit, continuons à avancer dans la direction que nous avons suivie jusqu'à maintenant. Frères, sœurs, imitez-moi tous, nous avons donné l'exemple, alors fixez vos regards sur ceux qui se conduisent selon cet exemple. Je vous l'ai déjà dit souvent et je vous le répète maintenant en pleurant. Il y a beaucoup qui se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Ils courent à leur perte car leur Dieu, c'est leur ventre. Ils sont fiers de ce qu'ils devraient faire, leur honte, et ils n'ont en tête que les choses de ce monde. Quant à nous, nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons que vienne notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Il transformera notre misérable corps mortel pour le rendre semblable à son corps glorieux, grâce à la puissance qui lui permet de soumettre toutes choses à son autorité. C'est un passage très dense qui nous enseigne énormément de choses, et je voudrais me focaliser notamment sur celle-ci, à savoir quand il nous dit que nous sommes citoyens des cieux. J'aime beaucoup cette expression, c'est quelque chose qui m'apaise. Et en plus, Paul utilise cette image de la course, donc du sport, et c'est une belle image qui nous rappelle que le prix à décrocher n'est pas un prix terrestre, ne sont pas les choses de ce monde, mais que c'est un prix qui est en haut à décrocher. Ce prix, bien évidemment, c'est le salut en Jésus-Christ, c'est de voir Dieu face à face. Et ainsi, nous autres, nous devons également tendre vers ce but qui est en haut, c'est-à-dire celui d'être en présence de Dieu. Et je pense que c'est le but ultime du croyant, de celui qui croit en son Seigneur Jésus, en Dieu, c'est de voir son Seigneur face à face et de demeurer avec lui. Et je crois qu'en sachant cela, notre perception du monde actuel change énormément. Elle change radicalement dès lors que notre seul but est de pouvoir voir Dieu face à face et d'être avec lui, d'être en sa présence. Cependant, on sait tous que la route est longue, que notre vie est longue, semée d'embûches, de problèmes terrestres bien souvent. Et je pense que quand Paul écrit ce message aux Philippiens, cette lettre, il devait sans doute savoir que les Philippiens rencontraient toutes sortes de problèmes, j'imagine, de ce monde, des problèmes terrestres. Et il devait peut-être se concentrer sur des choses qui n'étaient pas la parole de Dieu, qui n'étaient pas des choses sur lesquelles il fallait se concentrer. Et je crois que c'est pour ça que Paul les invite vraiment à s'en détourner et à porter leur regard directement vers le ciel. Et ce qui est incroyable dans la vie de chaque homme et chaque femme, c'est que les conséquences de nos choix ici sur terre, eh bien, elles déterminent notre avenir éternel. C'est-à-dire qu'elles déterminent ce que nous allons devenir une fois notre temps sur terre terminé. Alors bien évidemment que cet avenir éternel soit céleste ou dans la GN, eh bien c'est ce que nous faisons sur terre qui va décider de où nous allons aller. Notre course sur terre, à savoir nos choix, vont impacter directement notre direction, le ciel ou l'enfer. Et c'est là que l'importance de l'œuvre de Jésus est primordiale, elle est essentielle dans nos vies. C'est, autrement dit, la clé de voûte de chaque existence humaine. Et on l'a répété, Papy Hubert l'a répété, en effet, Jésus l'a accompli une fois pour toutes ce qu'il a fait sur la croix, et c'est pour ça que nous prenons ce repas en mémoire de lui, c'est pour nous souvenir de ce que Jésus a fait. Et il a accompli ce qu'aucun homme sur terre n'a pu accomplir, c'est-à-dire obtenir le salut. Et il n'y a qu'en lui qu'on peut obtenir ce salut. Et Jésus, il a tout accompli afin que nous puissions jouir dès maintenant de cette vie éternelle, pas dès lors que nous serons morts, ou dès lors que notre temps sur terre sera terminé, mais nous pouvons dès maintenant jouir de cette vie éternelle. Et je vais prendre deux passages donc, qui nous parlent de cela. Le premier, c'est en Colossiens 2, les versets 9 à 14. « Car tout ce qui est en Dieu a pris corps dans le Christ et habite pleinement en lui. Et c'est par lui que vous avez tout reçu pleinement, lui qui domine toute autorité et tout pouvoir spirituel. Dans l'union avec lui, vous avez été circoncis, non pas de la circoncision faite par les hommes, mais de la circoncision qui vient du Christ et qui nous délivre de notre être pécheur. En effet, quand vous avez été baptisés, vous avez été mis au tombeau avec le Christ et vous êtes aussi ressuscités avec lui, parce que vous avez cru en la puissance de Dieu qui l'a ramené d'entre les morts. Autrefois, vous étiez spirituellement morts et à cause de vos fautes, et parce que vous étiez des incirconcis, des païens. Mais maintenant, Dieu vous a fait revivre avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a annulé le document qui nous accusait et qui nous était contraire par ses dispositions. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. » Et enfin, le deuxième passage en Romains 5, 17. « Certes, la mort a manifesté son pouvoir par la faute d'un seul, à cause de ce seul être. » Il parle bien évidemment d'Adam. « Mais par le seul Jésus-Christ, nous obtenons beaucoup plus. Tous ceux qui reçoivent la grâce abondante de Dieu et le don de son œuvre salutaire vivront et régneront à cause du Christ. » Ces passages nous apprennent bien évidemment que Jésus a retiré les poids du péché. Il a retiré nos chaînes qui nous entravaient. Il nous a complètement libérés du mal dès lors que nous remettons nos vies en lui. Alors ma question aujourd'hui, c'est comment nous élever si nous continuons à remettre sans cesse ces poids, ces chaînes sur nos épaules, sur nos poignets? En gros, comment vivre pour Christ si nous laissons nos problèmes terrestres prendre le dessus dans cette vie? Un chrétien qui a l'espérance d'être sauvé, et c'est notre cas, mais qui malheureusement vit comme un pécheur enchaîné, ne vit pas comme Christ le souhaite. Jésus nous appelle à bien plus que cela. La vie éternelle est accessible, et ce dès maintenant, pas lors de notre mort. Jésus a tout accompli il y a 2000 ans, et on n'a pas besoin d'attendre de quitter notre enveloppe terrestre pour pouvoir vivre cette réalité-là, et vivre de manière sainte. Et afin de pouvoir mieux comprendre ce que je vous enseigne, j'ai repris une image qui me plaisait bien et que j'ai vue sur Internet. Peut-être certains d'entre vous l'ont déjà vue. C'est un pasteur qui s'appelle Francis Chan, je ne sais pas si vous le connaissez, et il utilise une image, moi, qui m'a vraiment parlé. Donc j'ai préparé une petite boîte là-bas, je vais chercher ce qu'il y a dedans. Alors cette image, c'est une corde, hein. Imaginez donc cette corde, et imaginez qu'elle n'a pas de fin, hein. Si je tire dessus, bon, vous savez bien qu'elle a une fin, mais mettons pour cette image qu'elle n'ait pas de fin, et que cette corde est infinie. Imaginez que cette corde, donc tout entière, représente votre vie éternelle. Chacun d'entre nous vivra de manière éternelle, certains au paradis, certains en enfer. Mais voilà, c'est notre réalité. Et vous voyez donc cette partie rouge qui est représentée ici. Eh bien, cette partie rouge représente votre temps sur Terre. Voilà, ça c'est votre temps sur Terre et tout ce qui s'ensuit, c'est votre vie éternelle. Donc vous avez quelques années sur Terre, vous avez cette partie rouge, et après l'éternité, quelque part d'autre. Hein. Et ce qui est assez stupéfiant de nos jours, c'est que ben, certains pensent que la vie ne se résume qu'à cela, et pas à tout ce qui s'ensuit derrière. Et effectivement, il y en a qui disent « Ah, ben, je ne vais pas attendre ce moment-là, alors je vais travailler énormément tout ici pour pouvoir économiser et profiter de cette toute petite partie-là, la retraite. Hein. » Et puis d'autres disent « Ah non, moi je veux voyager de là jusque-là, faire plein d'économies, bien manger, bien boire, etc. » Voilà ce que beaucoup de personnes dans le monde pensent, de pouvoir profiter uniquement de cette toute petite partie. Et parfois, nous, chrétiens, nous agissons comme cela. Nous ne considérons que cette minuscule partie. Mais le problème, c'est que faisons-nous de bien, tout le reste, toute cette infinité d'années qui va s'ensuivre derrière, des millions et des millions d'années? Et c'est assez fou parce que la Bible nous enseigne que ce que je fais durant cette partie-là, eh bien, elle va déterminer où je vais aller derrière, pendant la vie éternelle. Alors pourquoi est-ce qu'on passerait notre temps sur Terre à essayer d'avoir le plus de confort possible et de profiter autant que nous pouvons, si derrière nous sommes dans une destination qui ne nous plaît pas, à savoir l'enfer? Pour nous chrétiens, c'est différent puisque nous savons qu'en Jésus, nous irons au paradis avec Dieu. Et Paul dit « Je veux vivre ma vie pour cette mission, à savoir la mission de Jésus, pour ce moment où je vais passer à la limite, à la fin de cette corde rouge, où je passerai avec Dieu. Moi, je veux vivre pour ce moment-là, le moment où je trouverai Dieu et que je le verrai face à face. » Il dit également « Oublions toutes ces choses dont je pourrais tirer du plaisir sur terre. Oublions tout ce confort qui ne durera qu'un temps. Oublions tout ce confort et concentrons-nous sur ce qui va se passer derrière. Nous pouvons le vivre dès à présent. » Et comme le passage que je vous ai lu au début, il dit « Je veux être comme un coureur qui fixe le moment où je vais être face à face avec Dieu. Parce que je veux me préparer du mieux possible le jour où je poserai mes yeux sur mon Créateur. » Mais effectivement, le message qu'on a, nous, de nos jours, dans le monde, c'est qu'on nous dit qu'il faut vivre uniquement pour cette partie-là. Et ça, c'est Satan qui nous le dit. C'est le père du mensonge qui nous dit de profiter un maximum afin de nous entraîner dans notre chute. Et ici-bas, beaucoup de personnes vivent comme cela, hélas. Tout le monde vit que pour la partie rouge. Personne ne vit pour les millions et les millions d'années qui suivent derrière. Et je pense que c'est une grande déception pour ceux qui vivent cela. Et c'est de notre devoir en tant que chrétien de leur annoncer que la vie ne se limite pas qu'à cette simple corde rouge. Et Paul dit enfin, « Je garde mes yeux sur la ligne de fin et je vais oublier tout ce qui est derrière moi. Je ne regarderai pas autour de moi. Je vais m'entraîner pour ce moment, faire tout ce que je peux, utiliser tous mes muscles pour avoir ce trophée, la couronne de vie éternelle. Parce que je veux passer cette ligne en étant vainqueur, prêt à voir mon Dieu. » Voilà pour la petite image. Et je vais enchaîner avec un passage en hébreu qui dit « Soyons donc reconnaissants puisque nous recevons un royaume inébranlable. Manifestons cette reconnaissance en servant Dieu d'une manière qui lui soit agréable, avec respect et crainte. » Frères et sœurs, le royaume des cieux a un impact infini sur notre vie actuelle, sur notre vie éternelle. Sur cette corde rouge, alors soyons donc reconnaissants dès maintenant et vivons déjà les réalités du royaume des cieux dans nos vies. Colossiens 1, 9, 14. « C'est pourquoi nous ne cessons pas de prier pour vous. » C'est Paul qui parle aux Colossiens. « Depuis le jour où nous avons entendu parler de vous, nous demandons à Dieu de vous faire connaître pleinement sa volonté grâce à toute la sagesse et l'intelligence que donne son esprit. Ainsi, vous pourrez vous conduire d'une façon digne du Seigneur, en faisant toujours ce qui lui plaît. Vous produirez toutes sortes d'actions bonnes et progresserez dans la connaissance de Dieu. Nous lui demandons de vous fortifier à tous égards par sa puissance glorieuse, afin que vous puissiez tout supporter avec patience. Remerciez avec joie Dieu le Père. Il vous a rendu capable d'avoir part au bien qu'il réserve dans le royaume de lumière à ceux qui lui appartiennent. Il nous a en effet arrachés à la puissance de la nuit et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. C'est par lui qu'il nous a délivrés du mal et que nos péchés sont pardonnés. » Paul, en parlant aux Colossiens, il avait bien compris, avec l'aide du Saint-Esprit bien évidemment, que nous avons été arrachés aux ténèbres pour devenir des citoyens lumineux. Et c'est pour ça, quand je vous parlais de cette expression de citoyen des cieux, que c'est une réalité qui est valable dès maintenant, qui ne se vit pas après la fin de cette partie rouge, mais qui se vit dès maintenant. Alors que nous puissions agir comme tels. Et c'est marrant parce que récemment, j'écoutais une chanson d'un artiste américain chrétien qui parle un peu de la condition dans laquelle il était lorsqu'il a trouvé Jésus dans sa vie. Et il disait ceci, bon, je vous ai traduit les paroles. Il disait: « Tous ces morceaux par terre, j'ai brisé tous les rêves que je pensais avoir trouvés. Et toi, tu m'as remis sur pied. J'ai besoin de ta grâce pour mes fautes. Seigneur, je suis brisé. J'ai besoin que tu me restaures. Ta présence en moi est toute la force dont j'ai besoin. Et je serai à tout jamais comme chez moi. » Cet artiste qui dit qu'il était brisé, et que lorsqu'il a trouvé Jésus, il a été complètement restauré. Et il dit: « Ta seule présence me suffit dorénavant. Je n'ai pas besoin d'avoir plus. Tout ce qui est autour de moi, toutes ces tentations, tous les biens matériels, ce n'est pas ça qui est important. Seulement ta présence est importante pour moi. Seule ta grâce peut réparer mes fautes. » Et effectivement, c'est un peu comme nous. Dieu a ramassé un peu tous les morceaux de notre existence et il a réparé notre vie en Christ, grâce à Christ. Alors ne gâchons pas ce que Dieu a réparé, à ce qu'il a déjà œuvré dans nos vies. Recherchons Dieu, recherchons son royaume, comme en plus on l'a chanté ce matin. Recherchons le royaume de Dieu et travaillons pour que la lumière resplendisse autour de nous. Souvenez-vous, Jésus dira à ses disciples: « Soyez la lumière du monde, le sel de la terre. » Nous qui étions poussière avant que Jésus nous relève, eh bien il a fait de nous un peuple royal. Il nous a donné de grandes responsabilités ici sur terre. Et je crois que c'est de cette vie-là que Jésus nous parle lorsqu'il nous demande de vivre pour lui. Pas une vie banale, remplie de distractions, remplie de confort, mais une vie remplie d'éternité, de vivre notre éternité dès maintenant, d'être citoyen des cieux dès maintenant. Car la vie éternelle est déjà là. Nous sommes bien évidemment encore dans notre corps mortel, mais dès lors que nous donnons notre vie à Jésus, il renouvelle notre esprit, il nous transforme, il transforme absolument tout dans nos vies. En Matthieu 13, 45, nous lisons: « Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a achetée. » Trouver la perle de grand prix, poursuivre un but unique, servir Christ et participer à son royaume céleste. Et c'est ce que Jésus nous appelle à faire, c'est tout abandonner pour la cause céleste. Alors cela passe par la recherche de Dieu chaque jour dans nos vies, de l'œuvre rédemptrice de Christ dans nos vies. Ça passe par cette sanctification, c'est-à-dire prier, méditer, œuvrer pour l'Église, œuvrer pour le royaume de Dieu, accueillir le Saint-Esprit dans votre cœur, porter du fruit. Tout cela, c'est ce que Dieu nous appelle à vivre dès maintenant. Et effectivement, cette sanctification, elle doit faire déjà partie de notre quotidien. On ne sera évidemment jamais parfait ici sur terre, mais notre but, c'est d'en approcher. C'est qu'à la fin de cette ligne rouge, nous puissions être le plus proche de Dieu possible, de considérer cette partie rouge comme un petit peu de temps pour apprendre à connaître Dieu. Christ, en effet, nous a rachetés à grand prix et nous nous donnons comme mission de faire vivre son Église dès maintenant. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez de mon introduction, je me demandais quel était le rôle de l'Église. Eh bien, je crois que je l'ai un petit peu mieux cerné après avoir préparé ce message. Je crois que l'Église, avec un grand E, c'est-à-dire l'Assemblée des croyants, l'Assemblée des fidèles, de ceux qui croient en Jésus, eh bien, elle sert à nous rappeler qui nous sommes vraiment, de ce que Jésus a fait dans nos vies, pour chacun, chacune d'entre nous. L'Église est l'Assemblée de ceux qui aiment Dieu et qui essayent, de toute leur force, de ressembler à leur Maître, Sauveur et Seigneur Jésus. Il y avait dans ce chant pour enfants qui dit « En route vers le ciel ». Mais j'espère que nous sommes en route, frères et sœurs. Amen.